Tamani, voici nos informations en français.
Vendredi 2 août 2019, il est 18h, vous êtes à l'écoute de Studio Tamani. À la une de ce journal, le nouveau-né amputé de son bras à l'hôpital Gabriel Touré. Les responsables sanitaires de la structure reconnaissent l'erreur médicale et les associations de santé et parents de patients dénoncent un fait inadmissible. L'efficacité de la loi d'entente nationale est mise en doute. Des associations de défense des droits de l'homme pensent qu'il s'agit d'une loi susceptible de contribuer à l'impunité. Mobilisation pour la réhabilitation de la route Sévaré-Gao. Le mouvement Souba Al-Wakil et Dirbiben a organisé hier à Gao une marche pacifique. Les manifestants demandent aux autorités de réagir. Le développement de ces titres dans un instant avec Adama Amadou Haïdara à la mise en onde Fili Dambélé. Bonsoir à tous et bienvenue aux informations. Trois nouveau-nés auraient été amputés du bras à l'hôpital Gabriel Touré. C'était à la suite d'une erreur médicale dans le service de néonatologie, mais la direction de l'hôpital ne confirme pas ce chiffre ni des morts, mais reconnaît l'erreur médicale. L'incident provoque de vives réactions au sein de l'opinion nationale. Plusieurs associations de santé et parents de patients dénoncent un acte inadmissible qui doit être puni. Les explications avec Assetou Kanté.
Tout est parti d'une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle un homme explique les faits sur l'amputation du bras de son bébé. Hospitalisé depuis le 19 juillet, le père du nouveau-né indique que l'enfant souffre d'une maladie respiratoire. Selon des informations, une injection mal faite serait à l'origine de l'amputation. Cependant, certaines sources évoquent d'autres cas d'amputation. Mais le chef du département de pédiatrie, professeur Boubacar Togo, précise qu'il n'y a eu qu'une seule amputation. Le médecin dément également des cas de décès. Nous sommes en train de faire des études sur la situation et tout sera éclairci dès la semaine prochaine, affirme Boubacar Togo sans donner plus de précisions. Pour les responsables du syndicat du CHU Gabriel Touré, la pédiatrie de l'établissement rencontre plusieurs difficultés liées à un manque d'équipement, mais aussi des personnels qualifiés. Ils estiment qu'il y a eu des cas pires. Selon Jimé Kanté, porte-parole du syndicat du CHU Gabriel Touré, la direction de l'hôpital a été plusieurs fois saisie sur la question. Ils attendent des mesures adéquates cette fois-ci, déclare Jimé Kanté. Dans un communiqué publié hier, le directeur général du CHU Gabriel Touré a demandé un rapport circonstancié au chef du département de pédiatrie sur la situation.
L'incident de l'hôpital Gabriel Touré a provoqué la colère et l'indignation d'une partie de l'opinion. Le collectif Sauvons nos hôpitaux condamne cette situation qu'elle qualifie d'incident désastreux survenu à l'hôpital Gabriel Touré. Selon ce collectif, l'hôpital manque réellement de bonne gouvernance. Il pointe du doigt les responsables de la structure et demande un audit des différents hôpitaux du pays. Mariam Diawara est la porte-parole du collectif Sauvons nos hôpitaux. Elle est jointe par Assetou Kanté.
Que cette situation scandalise les gens à partir du moment où nous avons décrié le fait qu'il y ait des gens non qualifiés qui exercent dans les différents hôpitaux. C'est les bébés qu'on a vu cette fois-ci et ça scandalise, mais il y a des situations encore pires que cela. Dans les hôpitaux, il y a d'abord une question de gouvernance. Il y a tellement de choses que l'on se pose actuellement. Est-ce que Gabriel Touré même a sa raison d'être aujourd'hui? Est-ce que nos hôpitaux répondent aux normes? La solution, c'est de faire d'abord un audit de l'hôpital, des différents hôpitaux, du personnel et voir ce qui se passe. Parce que comment pouvez-vous expliquer que des stagiaires viennent dans les hôpitaux et se permettent de faire des soins? Actuellement, on ne sait pas à quel point se lier. Nous continuerons à décrier, à exiger à ce qu'on ait le fondamental qui est le droit à la santé.
Toute l'actualité du Mali, articles et programmes de Studio Tamani désormais disponibles sur WhatsApp. Pour recevoir toutes nos informations, il suffit d'envoyer Studio Tamani au 77 01 58 01 par WhatsApp. La loi d'entente nationale a été signée la semaine dernière par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Ce document de 37 articles devrait contribuer à ramener la paix et la réconciliation au Mali. Toutefois, selon une quarantaine d'associations de défense des droits de l'homme, cette loi favoriserait l'impunité. Les détails avec Hamadoun Hamameiga.
Cette loi vise, entre autres, l'abandon de certaines poursuites contre des personnes ayant commis des crimes ou des délits et la réinsertion des victimes de la crise. Elle fait aussi mention de l'organisation d'une journée de pardon national, une semaine de la réconciliation et la rédaction de l'histoire générale inclusive du Mali. Toutefois, les dates de ces événements ne sont pas précisées. Toujours selon les textes, un programme de rapatriement volontaire d'une durée de 2 ans sera adopté d'ici 2 mois. Cette opération sera menée en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR. Cependant, selon une quarantaine d'associations de défense des droits de l'homme, cette loi comporte des insuffisances, comme les délais courts de traitement des demandes d'amnistie, surtout pour les crimes graves. Selon Drissa Traoré de l'Association malienne des droits de l'homme, en plus de cette loi, il faut un comité de suivi pour éviter tout débordement dans son application.
À quand le dialogue inclusif? Après un mois de préparatifs, la date de la rencontre n'est toujours pas connue et malgré les mesures et plans annoncés, les choses peinent à se préciser, suscitant le doute chez certaines personnes. Qu'est-ce qui entrave donc l'avancée de ce processus? Ce dialogue est-il le type de dialogue recommandé pour le Mali? Saura-t-il apporter les résultats escomptés? Vous trouverez la réponse à ces questions dans cet élément signé Fatih Attara.
Les travaux sont butés à quelques difficultés, mais ils vont bon train, nous explique Mamadou Diarasouba, membre de la majorité.
Même si aujourd'hui les avis sont partagés, nous pensons aujourd'hui que c'est nécessaire d'y aller. Les organisateurs sont en train de travailler et savent maintenant quelles sont les personnalités qui restent pour les écouter. Donc, à partir de là, c'est eux maintenant qui vont fixer la date de ce dialogue-là.
Si le bilan est satisfaisant selon la majorité, l'opposition, quant à elle, estime que les concertations sont au point mort. Elle déplore des manquements entravant, explique-t-elle, le départ pour un dialogue franc et porteur d'espoir. Noum Togo, membre de l'opposition.
Nous attendons parce qu'on nous a fait savoir qu'il y a à peu près 70 personnes qui doivent aller dans l'organisation. Nous pensons aussi qu'il faut l'ensemble de l'opposition, 2 personnes. Nous voulons comprendre réellement comment ça se passe, comment les 70 sont invités, qui et qui vont participer. Donc nous sommes dans une situation de doute pour le moment.
À Mopti, une des régions les plus concernées par ces dialogues, les populations dénoncent certaines insuffisances dans les préparatifs. Pour elles, les populations les plus concernées sont les moins concernées. Nassira Amina Kanta, membre de la société civile des Mopti.
Moi, je crois que pour parler du dialogue exclusif, là, il faut nous dire d'abord la signification de ce dialogue. Plusieurs personnes se demandent que veut dire ce dialogue-là. Et préciser le contenu de ce dialogue.
Aussi, certains observateurs remettent en cause ce dialogue. Ils estiment que ce n'est pas le type de dialogue qui convient dans le contexte malien. Boubacar Bokoum, politologue.
C'est aux communautés de s'exprimer, de trouver les solutions à leurs problèmes qui sont maintenant adoptées par le principe du gouvernement central et non l'inverse.
Ce dialogue à l'initiative est une politique visant à pallier la fracture sociale au Mali pour ainsi instaurer un climat de confiance entre les fils du pays. Les thématiques essentielles qui seront abordées sont entre autres la révision constitutionnelle, les calendriers électoraux et l'amélioration de la gouvernance économique.
On l'avait annoncé dans les titres, une marche pacifique s'est déroulée hier à Gao pour dénoncer l'état de la route Gao-Sivare, initiée par le mouvement Soubalouakile Djirbiben. La manifestation a mobilisé plus de 200 personnes. Les manifestants ont demandé à l'État de prendre des dispositions pour la rénovation de ce tronçon, levier important selon eux de l'économie de la région. Le reportage de notre correspondante à Gao, Hadiza Maïga.
Depuis plusieurs années, l'axe Gao-Sévaré constitue un vrai casse-tête pour les populations du Nord Mali. Des habitants de la région, pour se rendre à Bamako, sont obligés de passer par le Niger et le Burkina Faso. Une situation devenue insupportable pour les usagers, d'autant que la reconstruction d'autoroutes est financée. Mohamed Babahaman, porte-parole des manifestants.
Nous avons appris avec beaucoup de stupéfaction l'acquisition du financement de la route Bourem-Kidal, alors que la RN16, route Gao-Sévaré, qui constitue le levier même de l'économie du Nord, reste sans suite. Nous interpellons le gouvernement malien et ses partenaires à prendre les dispositions nécessaires pour le bonheur des populations.
En plus de l'état de dégradation avancée de la route Sévaré-Gao, il faut ajouter l'insécurité qui règne sur ce tronçon. Des passagers y sont couramment braqués et violés. Une situation que dénoncent les manifestants. Mohamedou Alassane, un des manifestants.
Et ce qui nous a même motivés, c'est tout simplement nos sœurs qui sont violées sur la route. Nos frères et nos chauffeurs qui sont toujours braqués. Il y a aussi des mines que nos chefs sont toujours victimes.
Selon les gouverneurs de la région, à qui une déclaration a été remise, l'axe Gao-Sévaré et les aspects liés à l'insécurité font partie des priorités des plus hautes autorités. Signalons que la marche a été bien encadrée par les forces de l'ordre et aucun incident n'a été signalé. De Gao, Hadizatou Mohamed Mega pour Studio Tamani.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse et par l'Union européenne.
À présent, les échos de nos régions. La sage-femme du CESCOM de la commune de Serer, dans le cercle de Gourmararous, a été attaquée hier à son domicile par des bandits armés non identifiés. Elle et son fils de 15 ans ont été blessés par balles. Les victimes ont été évacuées au CESCOM de la commune pour les premiers soins. Pour le moment, on ignore les raisons de cette attaque. Le premier ministre, Dr Boubou Cissé, est attendu demain samedi à Massina. Déjà, toutes les dispositions sont prises au niveau de la préfecture pour réserver un accueil chaleureux au chef du gouvernement et à sa délégation. Des habitants attendent cette visite du PM pour plusieurs raisons. D'abord sur le problème de l'insécurité et aussi le problème de ravitaillement des paysans en intrants agricoles. Dans un instant, le grand dialogue. Bonsoir Mohamedou Touré.
Bonsoir Adama Hidra.
Le grand dialogue de ce soir va porter sur quoi?
On va parler d'un sujet préoccupant. Vous le savez, la journée panafricaine des femmes a été célébrée le 31 juillet dernier et dans ce contexte, nous avons décidé de faire un débat sur les violences conjugales et nous avons comme invité Oumou Diara Diéman qui est animatrice traditionnaliste et Moussa Traoré qui est le porte-parole des chefs de village de Ségou et le débat se fait en langue nationale bamananka.
Merci Mohamedou et très bon débat, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, le magazine.